Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette soirée où, en tant que responsable du domaine religion du monde aux facultés Loyola Paris, je suis heureuse de vous accueillir pour découvrir avec vous le dernier livre de Jacques Scheuer au titre aussi beau que suggestif et un peu énigmatique, La mort vivante. Alors cette soirée, elle est en même temps un hommage que nous rendons à Jacques. Jacques, cet inlassable pèlerin qui scrute les textes de l'hindouisme et du bouddhisme avec autant de précision et d'érudition que d'ouverture à tous ceux et celles qui cherchent et trouvent dans ces religions et leurs pratiques une voie spirituelle. Tous ceux et celles à qui tu apportes, Jacques, de très précieux conseils. Chaque année, je ne sais pas depuis combien de temps maintenant, mais toi tu saurais sans doute le dire.
Une douzaine peut-être.
Oh, un peu plus, non? Hein? Chaque année, tu ouvres un chantier nouveau et le livre qui fait l'objet de notre soirée s'est mis à la recherche et à l'écoute de l'Inde qui, je reprends tes termes, cherche son chemin dans le grand jeu de la mort et de la vie. Nous fêterons précisément dans quelques jours le 60e anniversaire de la déclaration de Vatican II Nostra Aetate, et je crois que tes recherches se situent bien dans la droite ligne de l'ouverture respectueuse aux traditions religieuses autres que le christianisme. Cette ouverture que le prologue de la déclaration exprimait ainsi, je cite, « Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, agite profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens et le but de la vie? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui embrasse notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? » Il me semble que dans toutes ces expressions, derrière toutes ces expressions, on pourrait mettre un certain nombre de des titres, des travaux et livres de Jacques. Nous sommes très heureux de t'écouter d'abord, présenter ton ouvrage avec son projet d'ensemble et ses principaux résultats. Puis, Colette Poggi fera écho avec sa propre lecture de ton livre. Colette est philosophe, sanskritiste et indianiste, spécialiste du shivaïsme du Cachemire, auteur d'une thèse sur Abhinavagupta et Maître Eckhart, et nous lui devons aussi de nombreux ouvrages sur la Bhagavad Gita, sur le yoga, sur la calligraphie, sur le sanskrit, souffle et lumière. Et je crois qu'on peut dire que ton approche, c'est une approche pluridisciplinaire et surtout une approche dynamique de la connaissance. Je crois que c'est une expression que tu emploies. Voilà. Ensuite, c'est Christophe de Coudin, maître de conférence à l'Institut de sciences et théologie des religions de l'Institut catholique de Paris, où il est responsable de l'axe Asie, qui interviendra. Il nous a paru intéressant à cause de nos liens avec l'ISTR et de la double compétence de Jacques en matière d'hindouisme et de bouddhisme, qu'il puisse y avoir un contrepoint vu du côté du bouddhisme en cette soirée. Christophe est en effet spécialiste du bouddhisme chinois. Sa formation première d'archéologue le conduit à approcher et à faire découvrir le bouddhisme à travers l'art. Je les remercie tous les deux de nous faire l'amitié d'être parmi nous et de nous partager leur lecture après la lecture que la présentation que nous en fera Jacques. Chacun des trois intervenants interviendra une vingtaine de minutes environ. Puis il pourra y avoir un échange, un petit échange entre eux et un échange avec vous tous. Et bien sûr, au terme de la soirée, Jacques pourra signer son livre pour ceux et celles qui souhaiteraient l'acquérir et garder la trace de la signature de Jacques après cette belle soirée. Mais je ne veux pas parler plus longtemps. Je te laisse tout de suite la parole, Jacques, pour nous présenter ton livre. Voilà. Merci.
Merci. Merci aux éditions, aux facultés Loyola. Merci à Sylvie Robert pour cette invitation et l'organisation de cette soirée. Je remercie déjà aussi Colette Poggi et Christophe de nous rejoindre pour cette occasion. Après un livre sur parole et silence, un autre livre sur sagesse et compassion, et donc un libraire ami de la maison est présent au fond de la salle pour ceux que cela peut intéresser tout à l'heure. Après ces deux livres, l'idée m'est venue d'explorer le thème de la mort et de tout ce qui tourne autour de la mort dans les traditions culturelles, religieuses et spirituelles de l'Inde hindoue. Il s'agissait d'abord de se laisser prendre, de se laisser gagner par l'étrangeté d'un thème, d'un fil rouge, étrangeté pour un lecteur occidental, pour un lecteur chrétien, et pour un lecteur du XXIe siècle. Il a paru bien vite, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, qu'un tel thème transversal, un fil rouge en quelque sorte, est un thème qui affecte tout être humain et toute société humaine. Que l'on prenne en considération le déroulement dans le temps, ça fait pour la tradition indienne une bonne trentaine de siècles, ou bien l'extension dans l'espace, et je rappelle que l'Inde est appelé parfois un sous-continent, ou encore la répartition dans les multiples strates de la population, même si la plus grande partie de nos textes ont été élaborés ou au moins retravaillés par les brahmanes. Dans tout cela, donc, le thème de la mort n'est jamais loin. Le livre s'ouvre sur deux vignettes qui sont fort éloignées dans le temps historique. La première a trait à une tradition qui remonte pour le moins à l'époque védique. Il s'agit de ce qu'on appelle la transmission. C'est-à-dire lorsqu'un chef de famille, un maître de maison, comme on dit en Inde, voit la mort proche, parce qu'il est blessé ou souffrant ou malade ou très faible, il fait venir son fils, le fils aîné de préférence, et le père est allongé sur le sol, et le fils vient se coucher sur son père, de telle sorte, dit le texte, que les organes du fils recouvrent exactement les organes du père. Et le père alors lui dit à son fils, « En toi je dépose ma voix. » Et le fils doit répondre, « En moi je prends ta voix. En toi je dépose ma vision. » Je dépose mon ouïe, je dépose ma faculté d'engendrer, je dépose ma capacité de diriger une famille, une maison, un troupeau, des propriétés. Toutes les dimensions de la personnalité du père et de sa personnalité familiale, sociale, économique, etc. Sont transmises au fils et alors le fils va se retirer en souhaitant à son père le bonheur dans l'autre monde. Et les choses sont transmises de telle sorte que même si le père venait à reprendre des forces et à retrouver de la santé pour quelques mois ou quelques années, il devrait vivre sous l'autorité de son fils. La transmission a été faite. Une autre vignette est un événement qui est presque contemporain pour nous, puisque à l'échelle de l'Inde du moins, puisqu'il se situe à la toute fin du XIXe siècle, lorsque un jeune garçon, on le connaîtra sous le nom de Ramana Maharshi, un jeune garçon brahman, mais sans antécédent particulier du point de vue spirituel, alors qu'il se trouve seul dans sa maison, est tout à coup saisi par la pensée de la mort. Et d'une manière qui n'est peut-être pas très coutumière pour quelqu'un de son âge, à 16 ans, il s'étend sur le sol et il se dit, si maintenant le corps disparaît avec la mort, qu'est-ce qui reste ? La conscience, l'esprit est éternel, ne donne pas de prise sur la mort. Et à partir de cette expérience ou de cette prise de conscience foudroyante, eh bien, il quitte la maison sans même prévenir sa famille et va se réfugier dans un temple assez distant où il va rester prosté en méditation pendant des mois. Chacune de ces deux vignettes, d'une certaine manière, a des retentissements dans le temps, en ce sens que la transmission, cette tradition védique très ancienne, va inspirer des événements qui sont rapportés par la suite dans la grande épopée du Mahabharata, et l'expérience que fait ce jeune garçon de 16 ans, le futur Ramana Maharshi, eh bien, cette expérience se base évidemment et reprend des thèmes assez précis que l'on trouve dans les Upanishads de 25 siècles auparavant. Voilà. Dans la première vignette, la transmission, la mort est d'abord un événement collectif, un événement familial et social. Le souci premier est d'assurer la continuité des institutions, des propriétés, des rôles sociaux. Il n'est pas encore question ni de la loi du karma, ni du cycle des renaissances. Et la destinée ou la destination par-delà la mort est encore très floue. Dans la seconde vignette, au contraire, nulle préoccupation d'assurer quelque continuité que ce soit, au plan matériel, familial ou social, mais plutôt la question, et une question qui pourrait être angoissante, la question de la survie ou de la permanence d'un principe intérieur, d'une réalité à la fois intime et transpersonnelle, cosmique, qui ne donne pas de prise à la mort. Plus largement, qui ne donne pas de prise au cycle sans commencement et sans fin des naissances, des morts, des renaissances. Une expérience intérieure foudroyante, qui amène ce jeune garçon donc à se réfugier dans un endroit lointain pour se plonger dans la méditation. L'idée que certains, l'Inde que certains disent éternelle, n'a jamais cessé en fait de vivre, d'évoluer, de se transformer. Mais dans le même temps, l'Inde n'oublie rien, ne laisse rien se perdre. Et donc les nouveautés en Inde tentent de se faire pardonner en se donnant des allures traditionnelles, tandis que les traditions tentent de se perpétuer en s'adaptant tacitement. Le parcours proposé dans ce livre suit approximativement le cours des siècles, ce qui peut paraître paradoxal à propos d'une civilisation qui s'intéresse fort peu à la chronologie. Mais c'est afin, cette succession dans les siècles, c'est afin de mieux faire ressortir la logique interne des développements, qu'il s'agisse d'images du monde, de doctrines savantes ou de rituels et de comportements dans la vie quotidienne. Le lecteur, par conséquent, ou l'observateur, est sans cesse confronté à des effets de tuilage ou de chevauchement. Ce petit livre, bien sûr, n'a pas la prétention d'être ni exhaustif ni encyclopédique. L'ampleur, la diversité du patrimoine hindou ne le permettrait pas. Parmi les thèmes abordés, je vais tout de même citer rapidement et pêle-mêle quelques-uns de ces thèmes. Tout d'abord, la vie humaine, l'existence humaine même, est une dette de naissance. Ensuite, le suicide est considéré comme une fausse sortie. La mort de l'épouse idéale accompagnant son mari défunt sur le bûcher de la crémation. La constitution de castes spécialisées dans les opérations funéraires. La surpopulation qui menacerait notre bonne terre si la mort n'existait pas. Les négociations souvent délicates avec les esprits des revenants. La fabrication d'un corps immortel par des techniques de yoga ou d'alchimie. Ce ne sont là que quelques exemples. Mon intention était de proposer un éventail suffisamment large du patrimoine indien et hindou afin d'illustrer sa richesse, sa variété, mais aussi et peut-être davantage encore son unité et sa cohérence. Je dois cependant reconnaître qu'au moins une dimension importante à la tradition indienne, plutôt qu'une dimension importante, manque à l'appel. Je me suis pour l'essentiel fondé sur des textes et sur des textes appartenant à la tradition indienne, plutôt par exemple que sur des récits de voyageurs étrangers. Mais il manque l'immense documentation de l'archéologie et de l'histoire des arts. Leur contribution pourrait, je pense que leur contribution devrait, à la fois confirmer, mais aussi nuancer, compléter ou corriger ce que les textes suggèrent. Quoi qu'il en soit, le plus souvent, le témoignage des textes s'offre à nous comme un fil d'Ariane. Il mène le lecteur de découverte en découverte. Par exemple, inscrit tout d'abord dans un contexte précis, tel symbole, telle image trouve bientôt un réemploi dans un tout autre contexte. Ou bien une interrogation qui est formulée dans le cadre d'une problématique particulière suscite un jour des questions nouvelles dans un autre domaine. Ou encore un enseignement que l'on risquait de perdre de vue se retrouve tout à coup repris et critiqué par les penseurs d'une autre école. Ainsi, par exemple, la perspective, la terminologie, les images des rites sacrificiels de la liturgie brahmanique, y compris l'immolation de victimes animales dans les sacrifices, vont-elles mettre en lumière la bravoure d'un guerrier qui n'hésite pas à mettre sa vie en jeu sur le champ de bataille. De même, le yoga ou les yogas ne sont pas absents de ce champ de bataille. Dans le Mahabharata, par exemple, de féroces combats s'interrompent pour permettre à un guerrier qui est aussi un sage, ou à un sage que des circonstances providentielles ont plongé dans la mêlée de la guerre, lui donner l'occasion de prononcer quelques enseignements ou encore de se recueillir et de s'unifier intérieurement par les méthodes du yoga afin d'entrer comme il convient dans la mort. Des domaines distants et apparemment bien distincts au sein du vaste monde hindou se trouvent ainsi traversés par des résonances et on pourrait aussi dire par des Upanishads, c'est-à-dire par des correspondances, qui tissent de subtils réseaux. Et il ne fait pas de doute qu'un lecteur indien et hindou qui serait profondément engagé dans sa propre tradition décèlerait dans ses textes bien d'autres résonances encore qui risquent d'échapper au lecteur occidental. Un trait caractéristique des conceptions hindoues de la mort et de l'après-mort, caractéristique bien que probablement non sans parallèle avec d'autres civilisations, c'est l'incertitude dans laquelle le croyant se trouve quant à la destinée d'un défunt, quant au lieu ou à la destination où il pourrait se trouver. Dans les hymnes védiques, c'est-à-dire dans les textes les plus anciens qui nous soient parvenus, l'image de l'au-delà reste assez floue. C'est tout d'abord un lieu sombre, un lieu d'oubli, peut-être pas très différent du Shéol biblique. Et puis, petit à petit, le paysage se différencie, avec d'un côté, vers le haut, des séjours célestes et lumineux en compagnie des dieux, et peut-être en compagnie des pères ou des ancêtres, et d'autre part, vers le bas, des lieux sombres et souterrains, sans qu'il soit encore question de souffrance ou de torture. Et il semble bien que la notion d'un cycle de renaissance, de réincarnation, conséquence du bilan des actions positives ou négatives, des actions méritoires ou déméritoires, soit encore inconnue des poètes des hymnes védiques. Cette loi des actes et de la rétribution immanente des actes, des fruits de ces actes, la loi du karma, ainsi que la conception d'un cycle sans commencement de renaissance apparaît progressivement dans les Upanishads et bien sûr vers le 5e siècle avec le Bouddha et le bouddhisme. Or, on s'apercevra peu à peu d'une tension entre les deux conceptions qui viennent d'être évoquées. Si vraiment la loi du karma est rigoureuse, intangible, alors les offrandes de nourriture, de boissons et même de vêtements à l'intention des défunts ne perdent-elles pas de leur efficacité? Ne sont-elles pas dérisoires? En outre, tout le dispositif des cieux comme lieu de récompense et des enfers comme lieu de châtiment et de torture, ce dispositif ne fait-il pas double emploi avec l'échelle graduée des réincarnations positives ou négatives? Remarquons par ailleurs que la suite innombrable des renaissances, des réincarnations, peut contribuer à dédramatiser en quelque sorte la mort. Celle-ci n'apparaît plus vraiment ni comme le point final, ni même comme l'opposé de la vie. Les morts au pluriel et les naissances au pluriel se succèdent plutôt comme autant de seuils sur la voie d'un interminable devenir, même si cette dédramatisation au plan de la doctrine ne se vérifie pas nécessairement, c'est difficile de le vérifier, mais ne se vérifie pas nécessairement dans la manière dont chaque personne individuelle peut réagir à l'approche de la mort. Mais par-delà soit l'espoir de paradis ou la perspective de renaissance répétitive, s'esquisse bientôt d'autres dimensions. À la lumière des Upanishads, des petits cercles de penseurs, de méditants, ne se laissent plus guère convaincre par la promesse de récompense céleste. Tout cela apparaît désormais comme provisoire, impermanent. Les dieux eux-mêmes ne sont-ils pas soumis au cycle des renaissances? Ce qui inquiète, ce qui angoisse désormais, c'est plutôt le caractère interminable de la chaîne des réincarnations. C'est le mauvais infini. Si vraiment une délivrance totale, définitive est possible, ce sera donc plutôt dans la reconnaissance d'une réalité ultime, d'une réalité à la fois intérieure et cosmique, qui transcende infiniment aussi bien les paradis que les enfers, ou encore les montagnes russes des innombrables renaissances. Cependant, de cette réalité, de ce réel, de ce soi, l'Atman, ou de cet ultime, le Brahman, que l'on propose comme source de libération et de salut, il est sans cesse rappelé que cela se situe au-delà de toute représentation, au-delà de toute compréhension de la part des êtres humains. C'est le fameux neti, neti, ni comme ceci, ni comme cela, des Upanishads et de toute la tradition par la suite. Une stricte réserve s'impose donc, comparable dans une certaine mesure, je pense, à la réserve qu'observent pour leur part les bouddhistes. Il faudra attendre de nouveaux développements, ceux de la bhakti, il faudra attendre les textes qui proclament cette bhakti, à commencer par la Bhagavad Gita, pour que l'absolu, sans cesser d'être absolu, se fasse plus accessible. Sans rien perdre de sa nature ultime et de sa souveraineté, le Seigneur, la réalité suprême prend maintenant une dimension plus personnelle, le Seigneur, peu importe qu'on l'appelle Vishnu, Rama, Krishna, Shiva, ou bien la grande déesse, en particulier Kali ou Durga, le Seigneur ou la déesse vient au-devant de l'adoration et de la louange de ses fidèles, et c'est sur lui ou sur elle que se centre la confiance et l'espoir à l'approche de la mort, en particulier à l'article de la mort. L'entrée dans la mort est souvent considérée alors comme un moment décisif, un instant déterminant, tout peut encore basculer, au risque d'ailleurs de méconnaître les rigueurs de la loi du karma. Tout est encore possible dans le jeu entre la liberté de la conscience et la grâce du Seigneur. Cependant, cet instant décisif de la mort, ce moment charnière, ne risque-t-il pas de reléguer dans l'insignifiance la vie quotidienne? Ne risque-t-il pas de priver de sérieux le lent déroulement d'une vie? N'est-ce pas plutôt de jour en jour et tout au long d'une vie ou tout au long d'une série d'existences, de renaissances, qu'il s'agit d'apprendre l'art de mourir. L'art de mourir à soi-même avant que la mort ne nous emporte, avant que la mort ne nous replonge dans le cycle désespérant des renaissances. Alors, selon les courants, selon les écoles, c'est tantôt la pure foi confiante, tantôt la sagesse perspicace et purifiée de toute illusion, tantôt enfin la pratique de l'action bénéfique dans un esprit de détachement et de service qui ouvre la voie d'une véritable victoire sur la mort. Déjà chantée par Lalla, une femme brahmane du Cachemire au XIVe siècle, et puis au siècle suivant par Kabir, un humble tisserand de Bénarès, ce que on appelle désormais la mort vivante, semble se situer au confluent d'une part de courants spirituels hindous, marqués notamment par les idéaux du renoncement et du yoga, et d'autre part de confréries soufies, porteuses de messages spirituels et de pratiques d'intériorisation inspirées de l'islam. Le parcours auquel invitent ces pages s'en tient donc strictement à ce que nous disent les textes indiens que j'ai pu rencontrer sur ma route. Chemin faisant, les questions qui affleurent ou les réflexions qui s'ébauchent, je viens d'en évoquer quelques-unes, sont celles qui véritablement animent ces textes, tantôt de façon souterraine et quasi implicite, tantôt plus rarement peut-être en remontant à la surface et en nourrissant même des débats. Tout au long de ce parcours, le lecteur occidental, qu'il soit juif, chrétien, musulman, qu'il s'inspire de telle ou telle tradition philosophique, le lecteur occidental pourra laisser ses propres étonnements, ses propres interrogations, ses propres approbations éventuellement, l'accompagner en sourdine. La conversation qui peut se nouer entre l'Inde et l'Occident, plus concrètement, entre des lecteurs indiens et hindous et divers types de lecteurs occidentaux, cette conversation se fait chaque jour davantage plurielle et complexe. Mon souhait cependant et mon espoir en conclusion, c'est que, outre le plaisir de découvrir les ressources d'une grande civilisation, d'un riche patrimoine, la femme ou l'homme d'Occident perçoive dans ces textes lointain et ancien, mais toujours vivant, quelques lumières qui l'inspirent dans sa propre quête. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir présenté ainsi le cheminement. À travers ce cheminement, toutes les questions que finalement l'humanité peut se poser à propos de la mort. Je crois que tu les as bien pointées et que cela nous donne vraiment le désir de nous plonger plus avant dans le livre auquel tu nous introduis. Alors, Colette s'est déjà bien plongée dans le livre et donc si tu veux bien maintenant, Colette, en 20 minutes aussi, nous présenter ta lecture. Merci.
Merci beaucoup, Sylvie.
Oui, sûrement, oui.
C'est mieux.
Une grande salle.
D'accord. Alors, comme ça va? Vous m'entendez? Voilà. Bien d'abord, je voulais dire que j'étais très heureuse et très honorée de participer à cet hommage, à cette lecture, à cette redécouverte de grands thèmes de nos cultures. Et je connais Jacques depuis une vingtaine d'années. Je l'ai connu aux Voix de l'Orient à Bruxelles, et puis à Louvain lors de colloques, et évidemment dans notre groupe interspirituel et dans des contextes à Paris également de partage. Je voulais dire que pour moi c'était vraiment un passeur et que tous ces livres, chacun de ces livres, je crois que je les ai presque tous lus, est comme une chambre d'écho qui à la fois nous fait découvrir l'Inde, que ce soit dans ses traductions, que ce soit dans Sagesse et Compassion, Parole et Silence, etc. Mais il nous fait découvrir donc quelque chose, il nous informe, mais cela va beaucoup plus loin, parce que cela nous renvoie aussi à notre expérience, c'est-à-dire ce que tu souhaites, en fait, je pense que c'est vraiment effectif. Et je crois que ce livre, peut-être plus qu'un autre, qui touche un domaine justement qui nous concerne tous, et que notre civilisation aujourd'hui a peut-être tendance à éluder, eh bien ce livre est comme un miroir qui nous fait plonger justement comment dire, dans une approche intuitive et non pas seulement informative, en déclinant des textes. Alors ça, il y a un paysage extraordinaire, nous côtoyons des personnages vraiment hauts en couleur, mais aussi il y a cette saveur vraiment comment dire, qui nous parle parce que nous nous sentons concernés, hein, et nous participons à cela. Voilà, donc en Inde, évidemment, on a une approche de la mort, je dis en Inde, en tout cas en Inde hindoue, tout à fait, comment dire, riche et d'expérience. Elle est là au quotidien, à Bénarès, au bord des fleuves, etc. Et il y a plusieurs expressions qui disent justement mourir. Il y a Mri, Mrityu, la mort, Maranam, etc. Mara, le dieu de la mort. Mais il y a aussi une expression très évocatrice qui est retourner aux cinq. Pancha, hein, Panta, Panchatvam, aux cinq éléments, pancha gam, c'est-à-dire que ce qui en nous est matière revient à la terre, ce qui en nous est fluide revient à l'eau, ce qui est en nous est feu, rejoint le feu cosmique, ce qui est en nous est air, rejoint évidemment l'air, et l'espace de notre corps comme disent certaines Upanishads comme une cruche, hein, une jarre, eh bien, se casse et l'espace interne ne fait plus qu'un avec l'espace. Voilà. Donc, il y a des approches tout à fait vivantes, je dirais, de cette expérience. Et si nous voyons plutôt la mort comme la souffrance, etc., les émotions négatives comme vraiment des choses à éviter, eh bien, on peut remarquer que, par exemple, dans le bouddhisme, hein, pour le Bouddha, c'est l'expérience de la plus grande souffrance, de la mort quasi proche, qui a déclenché justement l'éveil. Donc, pour l'Inde, en fait, la mort est peut-être l'autre face de l'éveil. Et en tout cas, pour ce qui est de ma petite communication en hommage à cet ouvrage, je voudrais aborder quelques traductions, enfin très récentes, puisqu'elles ne sont pas encore parues. Elles paraîtront le 20 novembre. Qui s'appelle « Les dévoilements de l'éveil », d'un texte cachemirien du 8e siècle, qui s'appelle les Chumas. Chumas, c'est-à-dire, ce sont des enseignements mystiques lapidaires, avec des formules très concises, destinées à être justement apprises. Ce sont des aphorismes, donc des mnémotechniques, qui montrent justement comment il ne s'agit pas de considérer la mort comme fin ou comme négation de quelque chose, mais plutôt comme dévoilement de ce qui était caché. Et comme si on accédait à une autre dimension. Et les éléments, en fait, qui vont se consumer, les éléments qui vont mourir en nous pour nous faire accéder à cet éveil au sein même de l'existence, soyons optimistes, eh bien, évidemment, ces éléments sont ceux qui étouffent notre vie. Ce qui fait que nous dormons notre vie, selon les expressions vraiment philosophiques indiennes, c'est-à-dire le moi, hein, qui étouffe, hein, comme une petite flamme qui serait le soi jaillissant, toujours nouveau et éternel, serait complètement engoncé, et cela opacifierait justement cet espace lumineux que nous sommes. Donc le moi, toutes nos identifications, nos conditionnements, mais il y a un autre élément qui sera cité dans tous ces textes et que Jacques a mis en lumière aussi, c'est le temps, l'attachement au temps et le corps. Hein, donc, en fait, il y a aussi la multiplicité, mais on ne va pas rentrer dans des domaines trop compliqués. Mais en tout cas, l'idée, je suis moi, hein, donc le nom, les identifications, on va dire ça, voilà, le temps, alors que, on va le voir, l'instant vivant, l'instant jaillissant, l'instant vécu dans toute son intensité, et comme une sorte de comment dire, de conjuration de la mort. Hein, on n'est pas dans une vie comment dire sans saveur, hein, qui se perd, mais bien au contraire dans un instant éternel. Bon, ça, ce sont des thèmes aussi de la mystique médiévale. Et le troisième élément, évidemment, c'est la corporéité, comme dit Maître Eckhart, hein, et donc voilà, l'identification au corps. Et donc, ce que je cherche à faire, puisque le but ultime dans la tradition hindoue, c'est la libération, ce que cherchent à faire les hindous, mais évidemment les jaïns et les bouddhistes, c'est de parvenir, pourrait-on dire, à la mort de la mort. Et donc, pour cela, il y a des symboles, par exemple la danse de Shiva. La danse de Shiva qui terrasse un démon, etc. Donc ça, c'est la mort de la mort. Et également, par exemple, les divinités shivaïtes telles que Kali, cette horrible divinité qui porte un collier de crâne qui est très sombre, etc., et qui est absolument repoussante, effroyable. Mais ce collier de crâne, justement, symbolise tous les mois auxquels nous devons mourir. Voilà. Donc, Jacques Scheuer, dans son livre, met en évidence tout cela, comme si notre Svadharma, notre vocation, était de transfigurer cette vie pour parvenir à mourir à cette vie approximative, étouffée par le moi, etc., pour accéder à autre chose, au soi. Et il dit ceci, par exemple, en citant le Rig Veda, « L'homme est le maître de l'immortel ». Voilà. Et il y a des rituels, justement, qui consistent à consumer. Ça, c'est un thème vraiment important, puisque le feu symbolise justement cette consommation, cette dévoration de la dévoration parfois. Et d'ailleurs, diksha, un des termes qui signifie des sacrifices, vient de la racine dah, D-A-H, un intensif qui signifie brûler, consumer avec ardeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, si bien que, pour reprendre les termes de Jacques Scheuer, cette mort vivante qui rend la vie plus lumineuse, qui est vécue de l'intérieur, par exemple, est exprimée ainsi par Goraksha, dans le Goraksha Shataka, qui est cité, je crois, 225, « Que signifie vaincre la mort ?» Alors celui-là, le yogi, il n'est pas dévoré par le temps, il n'est pas ligoté par l'action, ce yogi unifié dans le samadhi. Il est libre du désir, il n'y a plus de mort. Voilà. Et l'Allah, tu as cité, 14e siècle, donc shivaïte et soufi, va jusqu'à dire « meurs avant de mourir, car libre » de ce désir, donc d'avoir, d'appropriation du moi, il n'y a plus de mort. Et alors que l'on meurt tout en restant vivant, voilà bien la vraie connaissance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc passer d'une vie enfermée dans le corps, les désirs, cette superstructure artificielle, pour passer vraiment à un espace vivant qui est finalement mort à l'ancien moi. Alors donc j'évoquais ce texte qui s'appelle les Tchoumas, qui est en fait une sorte de récit. Au début, à la première personne, c'est un récit très vivant, plein de fraîcheur et de spontanéité. On raconte il parle à la première personne, que soudain, j'ai été frappé, foudroyé, et je suis tombé à terre, parce que le regard d'un maître, m'a effleuré, m'a touché. Et donc, il continue à dire, je suis resté un long moment sans pensée, sans perception, ni rien. Et puis, j'ai vu une lumière. Et évidemment, cette expérience de mort, finalement, de mort à l'ancien moi, l'a totalement, transfigurée et transformée. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à raconter, là. C'est l'archétype même de l'éveil, que l'on retrouve d'ailleurs, par exemple, dans la tradition médiévale, dans un texte attribué à Maître Eckhart qui s'appelle « Telle était Sœur Catraille », il distingue 5 morts ou anéantissement de l'âme en Dieu. Mourir à toute chose naturelle, mourir à l'esprit, mais vivre dans le vif de la vie, c'est mourir à Jésus-Christ, par le Fils entrer dans le Père et se connaître soi-même. Voilà. Et il dit, c'est alors que l'homme est assommé d'un coup mortel par la lumière divine qui le frappe comme la foudre jusqu'au fond de lui-même. À ce point, alors, l'homme se connaîtra lui-même. Ses pensées, ses paroles, ses actes, ses œuvres, alors, lui seront manifestées dans le reflet de la clarté divine. Voilà. On pourrait citer de nombreux exemples, mais là, on a vraiment, justement, une étude transversale de ce foudroiement. Alors, je vais prendre un ou deux versets de ces Tchoumas, qui sont vraiment très, très vivantes, très spontanées, et tout à fait, inattendues. Par exemple, le 94 s'appelle Jambuki Karanu, le moyen du chacal. Bon, le chacal, c'est pas très sympa. C'est un animal qui est très souvent dans les lieux sauvages où vivent les ascètes, mais aussi les cimetières, etc. Alors voilà le commentaire, parce que ça, c'est juste deux mots en sanskrit, mais le commentaire de Nishkriyananda, donc toujours au 8e siècle, ou un peu plus tard peut-être, et il explique ceci. Un chacal ne connaît pas la mort, dit-on, du fait qu'il retourne son regard en arrière. De même, après avoir attentivement médité sur la suprême conscience, en retournant le regard vers le dedans, ici même, dans cette existence, l'être tout entier, corps, souffle, esprit, parviendra soudain à la dissolution. C'est-à-dire, c'est comme s'il était consumé, les scories sont consumées. Ce processus, sans degré, c'est-à-dire immédiat, se nomme le moyen du chacal. Alors ça fait allusion, c'est peut-être surprenant, mais ça fait allusion à une phrase très ancienne, très connue, qui dit « Svayambhu, le créateur, a percé les ouvertures des êtres vers l'extérieur, si bien qu'on regarde au dehors, on pense au dehors, etc. Un jour, un certain sage, désireux d'immortalité ou d'immortel, retourna son regard vers le dedans. Et en fait, c'est tout le propos, ce voyage vers le soi, ce passage du moi, justement, au soi. Donc, cette transformation fait aussi que toute la structure que l'on croyons être, c'est-à-dire le corps par exemple, va se transformer. Et le corps en sanskrit, en tout cas dans ce texte, est appelé shariram. Shariram, c'est un des nombreux termes qui signifient le corps, hein, il y a deha, tanu, etc. Mais sharira a un sens particulier qui dit la nature profonde de l'être. Et je cite ce passage de la Garba Upanishad. Pourquoi dit-on pour le corps sharira? C'est la demeure où siègent les feux de la connaissance, de la vision et de la digestion. Parce que sharira, le feu, vient de la racine shri, qui veut dire irradier. C'est-à-dire que il y a d'autres termes hein, qui veulent dire la trame, etc. Mais c'est magnifique quand on se réfère à l'étymologie de voir qu'une conception du corps qui est souvent tellement dépréciée est là conçue comme une trame irradiante, mais opacifiée justement par toutes les superstructures. Alors la Tchouma 36 dit ceci. On appelle cette forme limitée du corps le petit coffre. Mais dès lors qu'elle se trouve dissoute, elle est dissoute justement par la conscience, la lumière de la conscience, elle est dite forme sans entrave et non un coffre qui enferme. Donc on pourrait croire qu'on est vivant, mais nous sommes enfermés dans un coffre, pratiquement mort. Hein, voilà. Alors que on peut, par un retournement de notre vision, eh bien, se libérer de cela. Tel est le sublime secret, l'union sans pareil, dénuée même de toute pratique méditative. Voilà. Parfaitement libre alors, la réalité, le monde, rayonne sans trêve pour les êtres qui, tout en étant dans le monde, voyez, sont dans goûte, savoure l'immersion profonde dans le soi. Alors ceci c'est vraiment important parce que c'est cette idée de le temps ce serait la circonférence, la roue qui tourne tout le temps. On le trouve ça dans les Védas. Mais le moyeu de la roue, le creux de la roue, l'espace, eh bien c'est Amritam, c'est la non-mort. C'est-à-dire que tout en vivant, nous pouvons nous relier par les rayons multiples du cercle infini à cette dimension. Voilà. Et donc, ce qui va faire que la pensée, les actions sont métamorphosées et sont pleinement vivantes, sont des œuvres de vie, eh bien, justement, oui, c'est cette expérience. S'il agit encore et encore, eh bien, c'est à partir de cette nature suprême indivise. Sans jamais cesser d'agir, eh bien, il demeure équanime. Alors, j'avais plein de choses à dire sur le livre aussi, mais voilà. Pour conclure, eh bien, je voulais dire que ce livre est un véritable viatique. Quand je l'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter de le lire parce que il est plein de rebondissements et je l'ai perçu vraiment comme presque un morceau musical en spirale qui allait vers une sorte d'apogée à la fin, car je pense que Tukaram et Kabir sont de grands amis de Jacques et c'est vraiment absolument magnifique ce qu'ils citent. Ce sont des pépites vraiment. Je ne vais pas vous les citer comme ça, vous aurez la joie de les découvrir. Mais je voudrais ajouter à ce cénacle vraiment Lalla, Tukaram, 17e, Kabir, absolument, vraiment, on est émerveillé de lire cela. Quelques deux versets de Tagore qui dit ceci. La mort, ce n'est pas éteindre la lumière. c'est seulement éteindre la lampe parce que l'aube est venue. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Colette, de nous avoir livré ainsi les résonances en toi de la lecture, résonance avec tes autres travaux. Et en particulier, il me semble que tu as beaucoup insisté sur le rapport entre la mort et le retour à l'intériorité. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous avez cité l'un et l'autre déjà à plusieurs reprises le bouddhisme, en proximité ou en différence. Et puis, tu disais, Jacques, que... une chose avait manqué à ton travail, c'était l'archéologie. Alors, je vais maintenant passer la parole à Christophe pour qu'il fasse écho du point de vue du bouddhisme et de son travail d'archéologue à la lecture du livre.
Je vais essayer. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et évidemment le partage. Alors effectivement, moi je viens d'un univers très différent qui est plutôt du domaine de l'archéologie, de l'histoire des arts et qui plus est du monde chinois. Mais l'Inde ne m'est pas complètement étrangère, notamment par quelque chose qui je pense est quand même très évocateur dans le livre de Jacques, qui est l'expérientiel. C'est-à-dire que on éprouve quelque chose d'abord avant de le théoriser. Nous, en Occident, généralement, on a ce tropisme inverse qui est effectivement ce réflexe très cartésien de vouloir théoriser quelque chose et d'ensuite de l'expérimenter. Mais qu'on soit en Inde ou en Chine, non, c'est le contraire. C'est bien le contraire. On éprouve d'abord quelque chose pour ne pas se limiter. Et ensuite, on va tenter d'y apposer une définition, un vocable. Et je crois que c'est quelque chose qui nous invite aussi à une certaine modestie. Et c'est ce qu'il en ressort dans le livre. Alors, pour la petite anecdote, le livre m'a touché parce que personnellement, il m'a interrogé sur la relation avec mon père. Alors Jacques, justement, l'évoque très bien, et il l'aborde dès le livre, notamment dans le deuil que le fils doit faire de son père, de toute la cérémonie qui est afférente. Et bon, à titre personnel, j'ai une relation qui est très compliquée avec mon père, je vous épargne le suspense de la révélation, c'est une question d'autorité. Et pourquoi ça m'a touché? Parce que évidemment, si mon père disparaissait, j'en serais profondément blessé. Et du coup, je m'interroge sur ces questions. Pourquoi? Pourquoi, malgré les difficultés de la vie, pourquoi je serais marqué à jamais par cette disparition? Et je crois que, de ce point de vue-là, le livre m'a énormément touché. Alors, évidemment, j'ai un regard très orienté sur les choses, nous l'avons tous. Et donc, j'ai fait une sélection raisonnée des thèmes qui m'ont fait écho et qui finalement permettent de répondre à cette question qui est posée dès l'intitulé, qu'est-ce que la mort vivante? Parce que ça paraît quand même assez paradoxal d'un point de vue sémantique de confronter, d'unir ces deux mots, d'autant plus que dans le sous-titre il y a la question de la vie et de la mort, et donc dans un regard très dialectique de thèse, antithèse, synthèse, on peut dissocier la vie et la mort. Mais dans le regard très asiatisant auquel nous sommes habitués, tout ça se confond. Et donc, je pense que ce livre tente de nous expliquer ce qu'est la mort vivante. Et donc, je vais commencer par la fin du livre. Alors, désolé, je vais vous spoiler une partie du contenu. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mais je vais me retenir, c'est promis, de tout démystifier. Il est dit que la mort vivante, et en fait Jacques l'a rappelé dans sa présentation propédeutique, c'est donc de faire mourir à soi, et Colette tu l'as rappelé effectivement dans ton discours, c'est de faire mourir à soi aux convoitises et aux illusions avec ses désirs afférents avant que la mort corporelle nous surprenne. Et donc effectivement je pense que c'est le retour, en fait c'est la fin du mois pour le retour à soi, ce que disait notamment Colette. Et pour comprendre ça, je vais essayer de faire ressortir plusieurs thématiques du livre qui, je pense, nous permettent, en tout cas qui, moi, m'ont permis de mieux aborder cette question très ambivalente, aussi bien qu'ambiguë, de ce qu'est la mort vivante. Alors, le premier thème qui m'a véritablement intrigué, c'est la question de la survivance. Pourquoi nous avons peur de la mort ? parce que nous avons peur de ce qu'il y a après la mort. Et je crois que c'est très humain. D'ailleurs, on citait la Bhagavad Gita, mais la Bhagavad Gita, c'est d'abord ce discours narratif. C'est de nous rappeler, si nous hésitons face aux événements de l'existence, c'est parce que, justement, nous avons peur de l'après. Il y a quelque chose de profondément existentiel et de mystérieux. Mais ça nous rappelle notre condition d'humain qui est que nous sommes faillibles, nous sommes en droit de nous interroger. Et dès le départ, Jacques, effectivement, pose cette question à travers un paradoxe, qui est la recherche de l'immortalité, ce que moi j'ai appelé la survivance ici. C'est-à-dire, comment les choses s'établissent après la mort? Quelle est la continuité? Alors dans le monde chinois, c'est évidemment une marotte que l'on retrouve dans les grands textes philosophiques et spirituels. Et il est intéressant de constater que, dans le monde indianisé, il y a finalement une mécanique sociétale avant même qu'il y ait une mécanique biologique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est très bien rappelé dans le livre, si par exemple un père n'a pas d'enfant et surtout n'a pas de fils, il peut adopter. Donc on voit bien qu'on n'est pas forcément toujours dans une logique biologique. Alors maintenant, je ne suis pas assez familier du monde indianisé pour pouvoir discourir sur le sujet, mais moi, ça m'a profondément marqué. Notamment parce que, justement, en arrière-plan, il y a cette question. Alors on va pas décrypter dans les détails les tenants et aboutissants de la chose, mais il y a quand même, je pense, la question de la renaissance et de la réincarnation. Or, alors moi je viens plutôt du monde bouddhique, il y a une vraie ambiguïté très volontaire sur la définition qu'on va adjoindre à ces deux mots. S'il y a la réincarnation, il y a quand même la question de l'âme qui est plus ou moins acceptée. La renaissance, en général, elle est beaucoup plus ambiguë, parce que, je me permets de prendre un exemple, là, j'ai en train de partager ce que je crois savoir sur le livre de Jacques. Bon, si après notre conversation, je sors dans la rue, que je me fais renverser et que je meurs, je me fais renverser par une voiture, peut-être que j'existerai au travers de mon âme, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une partie de mon savoir vous sera transmis à travers vous. Et c'est ça la question de la survivance. C'est comment nous existons au-delà de notre propre être. Et il y a différentes façons de la concevoir, au-delà de la question sémiologique, sémantique et sotériologique de l'âme. Bref, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Dans le domaine d'histoire des arts, moi, il y a une figure qui me marque et qui est effectivement bien étayée dans le livre, c'est la question de Yama, qui personnifie totalement cette question-là, puisque Yama est à l'origine un personnage, il est à la recherche d'une nouvelle vie, et finalement, paradoxalement, il va incarner la mort. Ça me fait penser à ce paradoxe, à cette ironie taoïste qui, en voulant absolument découvrir par le truchement de l'alchimie, de vouloir découvrir l'élixir de l'immortalité, ils ont inventé la poudre à canon, donc un moyen de destruction. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous dire, la vie est ironique. Un autre sujet qui m'a particulièrement imprégné, c'est effectivement l'impermanence, qui est complètement prééminente dans le discours bouddhique. Sauf que là, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que l'impermanence, elle est reliée à la question du rituel. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'absolutiser le rituel, parce que tout humain que nous sommes, nous faisons ce que nous pouvons pour accompagner nos morts, penser à eux. Et en même temps, ça nous rappelle que le rituel n'offre, alors je cite Jacques, le rituel n'offre que des fruits temporaires. Vous voyez, ça n'est pas un absolu, c'est une démarche qui est profondément humaine. Et finalement, le point nodal, le point central de cette pensée du rituel, c'est la question du sacrifice. Alors, je pense, sous-jacent à cela, il y a toujours la question de l'enseignement de Yama, puisque comme c'est très bien expliqué, il ne faut pas chercher du permanent dans l'impermanent, puisque c'est ce qu'explique notamment Yama lorsqu'on lui demande si après la mort, il y a un être ou un non-être. Encore une fois, je pense que Yama fait bien la transition entre la question de la survivance et de l'impermanence, et notamment le lien avec le rituel et le sacrifice. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, quel type de sacrifice on parle ? C'est l'offrande à soi. Et pareil, alors je suis très embêtant là-dessus, mais j'ai toujours pensé que la démarche scientifique procédait d'une définition des mots. Le sacrifice et l'offrande, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que vous voyez, surtout dans l'enseignement à la recherche, je pense que on a tous la légitimité d'en parler. On sacrifie beaucoup de notre être, mais il y a aussi une limite aux choses, parce que nous sommes des êtres limités. Il y a tout un travail d'acceptation de ce que l'on peut sacrifier de nous. Dans tous les cas, il y a d'abord une offrande, et moi c'est ce mot qui me marque particulièrement. Une offrande, et pour moi, quelle est finalement la différence ? Ben, l'offrande pour moi c'est d'abord une marque de respect. Et ce qui est très bien évoqué, c'est que dans le rituel hindou, finalement l'offrande que l'on fait vis-à-vis des morts permet d'enregistrer, d'inscrire le mort dans un culte des ancêtres. Alors, évidemment, vous en doutez bien, tout sinisant et chinois que je suis, le culte des ancêtres, évidemment, ça me parle énormément. Parce qu'effectivement, c'est d'abord, il y a la question évidemment de la mort, de la continuité familiale dans l'au-delà, mais c'est aussi, je pense, d'abord un hommage, un respect qui est temporaire d'une certaine mesure. C'est-à-dire que moi, j'ai ma façon de respecter mes morts, peut-être que mes enfants, peut-être que ma descendance fera évoluer le rituel. Le rituel, c'est ça, c'est-à-dire qu'il souligne que la survivance, elle est évolutive, elle est liée à la fameuse question du temps qu'on a beaucoup énoncée, et qu'elle n'a rien d'absolu en soi. Bref, on fait ce que l'on peut. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans cet exemple très détaillé du rituel de la mort qui est décrit par Jacques, c'est que c'est quelque chose qui est d'abord humain. Ensuite, il y a évidemment le lien entre le rituel, mais aussi la question du renoncement, qui, je pense, est sans doute l'un des dénominateurs communs des concepts des pensées asiatiques. Alors, pour amorcer ce passage vers la question de ce qu'est le renoncement, on passe par un mot qui, moi, m'a vraiment interpellé, qui est la question de la dette. Nous avons une dette. Et pourquoi ? Pourquoi nous avons une dette ? Eh bien, parce que nous appartenons à un grand tout, et que notre moi a tendance à nous le faire oublier. Nous avons un nom, nous avons un prénom, nous avons une nationalité, bref, nous avons une temporalité, une spatialité, mais n'empêche que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Et finalement, cette dette, moi je le comprends comme ça, en tout cas c'est mon regard très très disruptif dans la question, c'est de nous rappeler que tout ça ne nous appartient pas. Ça nous est en partie donné, et à un moment donné, nous allons le rendre, tout simplement. Et donc, évidemment, le renoncement me parle parce que c'est un concept qui va être énormément pensé, réfléchi, raisonné par le bouddhisme. Qu'est-ce que le renoncement ? Le renoncement, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Ça a été très bien évoqué, je pense, aussi bien par Colette, Jacques que Sylvie. C'est le fait qu'il y a un abandon du moi, on comprend que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Bon, ça, je pense que de moi, ce que je crois avoir compris de la pensée indienne, c'est quelque chose, évidemment, d'essentiel, de fondamental, de foncièrement important. Je pense que c'est aussi des choses un petit peu plus subsidiaires, mais qui demandent à être conscientisées. Le renoncement, c'est être capable d'accepter que on ne sait pas tout, c'est capable d'accepter l'échec, c'est capable justement de ne pas aller au bout de quelque chose. Et je peux vous dire que une fois de plus, dans nos domaines très particuliers de l'enseignement à la recherche, c'est quelque chose de difficile, surtout quand on est jugé. C'est très difficile de se dire qu'on accepte l'échec. Je suis toujours, je pense, en processus d'apprentissage, de me dire, bon ben parfois je fais des choses et juste ça ne marche pas. Mais je l'ai tenté quand même. Ça, c'est une grille de lecture. Une autre grille de lecture, on parlait de rétribution karmique tout à l'heure. Quand on fait la charité, quand on donne par exemple une pièce à quelqu'un qui est nécessaire, bon, il y a différentes formes de charité évidemment, c'est difficile de se dire que on fait ça gratuitement, que l'on n'espère pas que l'univers aille dans notre sens et nous apporte des fruits. C'est extrêmement difficile. Moi, c'est un travail que j'ai sur moi, évidemment. Bon, moi, dans mon éducation, on m'a appris la charité, mais j'ai toujours une arrière-pensée quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je peux pas m'en empêcher, mais pourtant il y a bien un travail d'acceptation de me dire que bah, c'est humain. Et pourtant, j'essaye de m'en détacher. Je me dis, ok, je fais quelque chose pour quelqu'un. Tout humain que je suis, j'ai peut-être une arrière-pensée, mais à la fin, je sais que ce n'est pas le résultat qui compte, parce que je n'ai pas fait ça pour moi. J'ai fait ça pour quelqu'un d'autre. Et nous appartenons évidemment à un même environnement, mais c'est d'abord pour la personne et son environnement. Bon, je pense que le rituel et la relation à la mort nous rappelle cette question du renoncement. Mais il y a tout un travail de décryptage, de décortiquage de ce que c'est finalement le renoncement. Et donc on en vient à un autre thème qui est celui du devoir et de la dévotion. Alors j'ai lu la Bhagavad Gita et alors... désolé pour l'outrage, j'ai même enseigné la Bhagavad Gita, alors que je suis sinologue, j'ai enseigné la Bhagavad Gita à l'Institut catholique de Paris. Mais pourquoi? Alors pourquoi j'enseignais la Bhagavad Gita? Mais parce que quand on m'a demandé d'enseigner un ouvrage, alors au début j'ai pensé au Sutra Bouddhique, mais je me suis dit pour un public, un auditoire qui n'est pas très au fait des concepts bouddhiques, ça ne leur parlera pas. Par contre la Bhagavad Gita, ça parlera à tout le monde. Ben, je le sais parce que c'est le livre indien qui me parle le plus sans être moi-même indianiste. Or, effectivement, il y a deux concepts qu'on peut relier au paradigme de la mort dans la Bhagavad Gita, c'est le devoir et la dévotion. Arjuna, lorsqu'il se retrouve sur le champ de bataille et qu'il doit affronter ses propres parents, eh bien, il se pose la question. Il se pose la question, est-ce que je dois accomplir mon devoir de guerrier, mon devoir sociétal, ou au contraire, j'ai un devoir peut-être familial qui doit primer sur tout le reste et qui est finalement un devoir sentimental et qui m'imposerait une certaine retenue. Et la réponse qui nous est donnée dans la Bhagavad Gita, c'est que ça ne nous appartient pas. La mort ne nous appartient pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, notamment qu'on peut relier au temps. Et alors, quand on parlait justement de cette question du temps, moi j'avais cette image de Krishna qui, à un moment donné, parce qu'il voit que quand même Arjuna a beau avoir les explications métaphysiques, il ne conscientise pas l'absolu, et donc il décide, dans une espèce de théophanie, de se livrer complètement à Arjuna et de se manifester dans son absolu, et ce que l'on voit, c'est le temps destructeur, le temps dévoreur. Et en même temps, eh bien, c'est un moyen de nous rappeler à notre condition. Et cette condition qui est que, eh bien, nous pouvons tenter de maîtriser les choses, nous ne les contrôlons certainement pas, la mort encore moins que tout le reste. Et donc, le résultat dans la Bhagavad Gita est le suivant, c'est que, eh bien, il faut aller au combat, il faut faire son devoir. Et pour comprendre ça, il y a une forme de dévotion. Et je crois que c'est ce qui est un petit peu rappelé dans le livre, justement, de Jacques, quand il parle de la Bhagavad Gita, quand il parle de ce dilemme du roi, et donc du dilemme de sa propre condition, c'est que, eh bien, il faut dépasser un petit peu cet esprit, il faut dépasser nos propres paradoxes. Et moi, ça me parle, parce que, l'une de mes réflexions très récentes, c'est la suivante, c'est que justement, l'une des grilles de lecture que l'on peut avoir du renoncement, c'est justement de devoir se débarrasser, lapsus révélateur, de renoncer à ses propres paradoxes. C'est très difficile de se dire, ok, je n'ai pas la réponse à cette question, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, mais c'est pas grave, mais quand on est conditionné à justement avoir un esprit un petit peu analytique, quand on n'a pas la réponse, c'est compliqué. Le livre me l'a, je pense, très bien rappelé. C'est surtout vrai quand on est dans les situations les plus extrêmes. Et quelle situation plus extrême que la mort? Quand on est face justement à la maladie, que l'on est face à quelque chose ou finalement que l'on n'avait pas mentalisé jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Bon, moi je crois que tout ça nous le rappelle bien. Qui plus est, Jacques, justement, nous rappelle que il y a une peur, justement, de la destinée. On a peur, finalement, de dans quelle vie, dans quelle existence nous allons nous retrouver. Alors ça, c'est très indien. Nous, je pense qu'il y a plutôt la peur du néant en Occident, du rien, qui, je pense, n'existe pas tellement en Extrême-Orient. C'est pas la métaphysique du asiatique, qu'elle soit chinoise ou indienne, elle ne conçoit pas tellement le rien. Il y a toujours quelque chose. Mais on n'est pas sûr de la nature de ce quelque chose. Pourquoi? Et parce que c'est l'expérientiel. Faut d'abord vivre la mort. C'est terrible. Mais faut d'abord vivre la mort avant de pouvoir la théoriser. On ne peut qu'approcher les choses. Bref. Pour approcher les choses, moi je dirais que Finalement, c'est la question de la dévotion, je le dirais autrement, c'est la question de la foi, d'avoir un système de croyance. Bon, j'aurais beaucoup d'itérations de pensée, notamment vers Carl Jung, qui a psychanalysé tout ça, mais je vais quand même pas m'aventurer sur ce champ-là. Je vais terminer finalement avec deux thèmes. La question de la libération, qui finalement, quelque part, va lier la mort et la vie. C'est-à-dire, alors je cite cette phrase, « La civilisation hindoue se montre conservatrice dans un art consommé de ne rien évacuer de manière précipitée. » C'est tellement du génie, parce que justement, je pense que ça annonce parfaitement la libération progressive. Le rituel de la mort et toute la réflexion qu'elle implique, en fait, nous amène à cela. Alors, il y a quand même derrière un débat, peut-être même une scission finalement entre ceux qui prônent, pareil, je cite les propos de Jacques, entre ceux qui prônent l'orthodoxie des rites et ceux qui au contraire la critiquent comme quelque chose qui empêche le détachement. Moi, j'ai envie de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, ça, c'est peut-être mon regard cynisé. On peut être parfaitement orthodoxe, faire un rite, et en même temps, on peut apprendre à se détacher. Je me permets de citer une petite anecdote. L'année dernière, un de mes étudiants m'a invité à l'église Alexandre Navesky, dans le 17e arrondissement à Paris, pour suivre un rite orthodoxe. Et ce qui m'a frappé, c'est la dévotion que les orthodoxes ont vis-à-vis de leurs icônes, qui est quelque chose qui, moi, justement, dans mon propre système de foi, est un petit peu étranger. Non pas que... Bon, je suis historien d'art, évidemment, j'ai un attachement aux icônes, mais qui est un petit peu différent. Et j'ai compris une chose, c'est que je ne peux comprendre leur attachement aux icônes, leur pratique dévotionnelle, que si je fais l'expérience du rite, vous comprenez? Alors quand je sortirai de l'église... Alors j'ai fait quand même 4 heures en rite... Alors j'ai pas tout compris, hein, c'était en russe, mais j'ai fait 4 heures de rite orthodoxe, pour vivre finalement une expérience commune. Et ma conclusion finalement très académique et très artificielle est que je ne pouvais pas comprendre cette dévotion si moi-même je n'avais pas fait l'effort de vivre le rite avec eux. Voyez, il y a, on revient à cette question de l'expérientiel. Après, je reviens à mon système de foi. Après, j'ai peut-être mon détachement aussi que je tente de pratiquer dans mon système personnel. L'un n'empêche pas l'autre. Bon. Pour ne pas être trop long sur le sujet, je vais dériver un petit peu vers le bouddhisme. Dans le livre, il est dit aussi que lorsque le Bouddha atteint l'éveil, il ne produit plus de karman. Mais comme pour le tour d'un potier qui a été lancé avec énergie, et j'adore la façon dont tu files la métaphore, le corps du Bouddha reste actif, même après l'éveil, mais décline progressivement jusqu'à s'arrêter et mourir. C'est comme je vous l'ai dit, je vous partage, on échange. Mais qui dit que je vais pas me faire renverser par une voiture à la sortie? Bon, j'espère pas quand même. Mais qui me dit qu'il va pas m'arriver un truc? Mais n'empêche que, quoi qu'il arrive, et voyez, il y a quelque chose de foncièrement positif dans tout ça. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'arrive, il en restera forcément quelque chose. Et moi, en tout cas, j'y crois fondamentalement. Et c'est un petit peu d'ailleurs le concept de renaissance chez les bouddhistes. Alors c'est aussi une façon d'évacuer la question très sotériologique de l'âme, surtout dans le monde chinois où on a beaucoup joué sur les mots, on a beaucoup joué sur les grilles de lecture très ambivalentes. Mais n'empêche que voilà, quelque part, s'il y avait un pot commun du concept sotériologique, on trouverait celui-là. Et dans l'hindouisme, notamment on parle de la mukti, et donc la libération c'est de ne plus donner prise à la loi du karma ni au cycle de renaissance que vous avez parfaitement rappelé dans vos propos. Et finalement, si je superposais ça par rapport à mon expérience très personnelle, faut pas faire de ces choses-là une obsession. C'est-à-dire que faut pas faire du détachement, vous voyez, je parlais du renoncement, on a différentes grilles de lecture. Mais il faut pas en faire une obsession. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée de renoncement. Il faut accepter de ne pas pouvoir définir complètement le renoncement. Il faut accepter de ne pas pouvoir parvenir au renoncement. Le renoncement implique ça. Il y a quelque chose de très métaphysique, de très ontologique, qui nous permet justement de dépasser nos paradoxes. Et finalement, le renoncement ne devient, je trouve, qu'une intuition. Et ça me suffit très bien. Alors, je vais peut-être pas être trop long, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais juste, il y a quelques... Hein?
2 minutes.
2 minutes, oh, c'est parfait. en fait, il y a quand même des questions qui sont posées, justement, qui étaient assez intéressantes. C'est, est-ce que l'éveillé dans le bouddhisme considère son corps comme une dépouille? Est-ce que finalement, si nous atteignons l'éveil, alors l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est la conscientisation de la nature ultime du réel. Bon, voilà, tout est dit. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas éveillé, mais c'est pas grave. En tout cas, cette question se pose. Est-ce que quand le Bouddha est devenu un être éveillé, est-ce qu'il considérait son corps comme une dépouille? Ben, j'ai envie de vous dire, il considérait son corps comme une mort vivante. C'est-à-dire qu'il a parfaitement accepté que son corps allait mourir. C'est pas parce que son corps mort qu'il n'y aura rien après. Donc, c'est l'une des, je pense, des conclusions à laquelle on arrive. Et finalement, il y a aussi une question de méthodologie qui arrive à la fin et qui, moi, me parle, qui est la question de la méthodologie du yoga. Puisque les textes, c'est très bien rappelé, les textes du yoga, donc les textes yogiques, notamment les Yoga Sutras, ne répondent pas directement à une question. Faut-il se tourner vers la mort pour éprouver la libération, ou bien la libération est-elle une nouvelle forme d'existence lors du vivant du yogin? Ça, c'est une question assez ambiguë. Moi, je crois que c'est tout simplement relié à la même question, est-ce qu'on sépare la vie et la mort? Est-ce que l'absolu, est-ce que la nature, est-ce que Dieu, peu importe comment vous appelez tout ça, est-ce que finalement, il y a une véritable distinction? Ben, je sais pas. Si j'y apposais un regard bouddhique, ben, dans l'une des définitions du bouddhisme, et à un moment donné ça a été mentionné, c'est l'équanimité. C'est-à-dire que tout est égalité dans l'absolu. Ça ne nous interdit pas en rien de faire des distinctions entre les choses. Mais à la fin, c'est nous, avec nos mots, nos schèmes, qui distinguons. Et donc, je termine sur cette phrase. La dissolution des éléments constitutifs de notre existence relative va de pair avec une forme de révélation. Et alors ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que, justement, l'une des difficultés à faire communiquer les religions monothéistes de la révélation, et notamment de la révélation chrétienne, à laquelle je suis plutôt affilié, eh bien, c'est assez compliqué de faire communiquer cette révélation avec les traditions d'Asie, où il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a pas de révélation à proprement parler. Et donc là, j'ai enfin trouvé un élément qui pourrait définir une pensée asiatique comme une révélation et qui permettrait justement de faire un pont entre les deux. Donc voilà, je finirai sur ce mot et je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Christophe. Tu as commencé par l'expérientiel et terminé aussi par l'expérientiel, et il me semble que tu nous as bien montré toutes les résonances que tu avais pu développer à la lecture du livre, justement dans le sens de l'expérientiel. Merci beaucoup. Alors, peut-être Jacques, as-tu envie, avant qu'on laisse la parole à la salle, de dire un mot ou l'autre, hein, après avoir entendu ceux qui t'ont lu de près?
Voilà, oui. Bon, brièvement quelques mots, mais sans entrer, je dirais, dans toutes les questions qui ont pu être soulevées. Bien sûr, il y a eu des thèmes comme celui de la dette. Donc, l'Inde souvent enseigne que l'être humain n'est avec des dettes, mais que l'enfant qui naît est une dette, et que toute sa vie est d'une certaine manière une reconnaissance justement de ce réseau dans lequel il naît, dans lequel il est né, et qu'il va en quelque sorte à travers sa vie quotidienne racheter cette dette. Les textes disent alors que la dette est à la fois à l'égard des êtres humains, et on s'en acquitte par l'hospitalité, à l'égard des animaux, on va aussi les nourrir, à l'égard des ancêtres, on va leur présenter des offrandes, à l'égard du Veda, on va le réciter. Réciter le Veda, c'est s'acquitter d'une dette à l'égard de cette révélation, et ainsi de suite. Et puis toutes ces dettes, en fait, sont des dettes à l'égard de la mort, puisque toute la vie, finalement, va se terminer par la mort. Et donc, il faut apprendre à se situer par rapport à tout cela. Il y a le thème de l'intériorité, il y a le thème du renoncement, du détachement, et bien d'autres. Donc, simplement, j'étais à la fois reconnaissant et heureux, si vous voulez, d'entendre que, voilà, une lectrice, un lecteur, à partir de ces textes indiens, on peut déjà entrer dans cette conversation, qui était un petit peu l'objectif de ces pages, de cette conversation entre le monde indien et puis le monde occidental, le monde ancien et le monde moderne, le monde hindou et le monde chrétien, ou juif, ou musulman, ou autre. Donc que cette conversation ait déjà été entamée, hein, que nous avons d'une certaine manière participé par l'écoute aussi, nous tous. Voilà, je n'ajouterai rien d'autre que cela, et c'est déjà de ma part un signe de gratitude, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes, une petite dizaine de minutes, pour pas dépasser trop, hein, on a commencé un peu en retard, hein, pour que vous puissiez vous-même, hein, peut-être poser une question, apporter une réflexion, réagir. Yann Pagneux. On va peut-être prendre, si jamais il y avait une autre question ou une autre réaction.
Au raté des pâquerettes, deux choses. Je suis très agréablement surprise. Je suis du Pays Basque, là-bas.
Si vous pouvez parler bien dans le micro, s'il vous plaît.
C'est curieux, mais je retrouve plein d'éléments que j'ai vu vivre. Premièrement, quelqu'un de très proche a perdu son vrai jumeau, et je l'ai su tout doucement, il s'est étendu sur la tombe. Un, deux, je suis allée au cimetière là-bas avec mes petites nièces, et elles avaient jamais été dans un cimetière forcément, et le premier réflexe de l'aîné, je sais pas, 5 ans et puis 7, elle s'étend sur la tombe. Voilà. Et alors, bon. Et le deuxième point, quand j'étais jeune, 20 ans par là, nous les bleus, nous étions chargés de choses qui étaient un peu, qui prenaient du temps et un peu pénibles, enfin bon. Et j'étais chargée de surveiller, on disait en ce temps-là, mais bon, par exemple, de Monsieur Abraham. Il était couché, un bel homme, et nous échangions d'une façon extraordinaire, et pour tous ceux qui venaient le voir, phylactères, etc. Et dans les transmissions, j'étais très ennuyée. Il était question d'agonie, comme on l'entendait en ce temps-là. Pour moi, l'agonie, comme on l'entendait, ça n'existe pas. Et, bon, ce qu'il y a, vous me ramenez ça que je n'ai pas oublié. Alors, on échangeait, et puis il était en fin de vie, tout à fait en fin de vie pour tout le monde. Et il me dit, Yahvé m'attend, j'essaie de retenir ses propres mots, Yahvé m'attend et me demande, Abraham, est-ce que tu vas vers toi? Voilà. Et il est décédé dans la nuit.
Merci beaucoup de cet écho.
Sacrifice, oui. Renoncement.
Brièvement, si vous voulez bien.
C'est tout. Mais, c'est tout.
Oui, merci. Alors, Jacques, si tu veux reprendre la question de Yann.
Oui, je dirais ceci. Ce qui me vient à l'esprit à l'invitation de Yann, c'est que finalement, dans pas mal de traditions de l'hindouisme, si je comprends bien, si vous voulez, il n'y a pas tellement une... La vie et la mort ne sont pas des événements ou des conditions qui se succèdent ni qui s'opposent, mais d'une certaine manière, la vie et la mort sont deux forces ou deux puissances ou deux mouvements qui sont continus et qui coïncident dans le temps. C'est-à-dire que la force de la vie et le pouvoir de la mort sont à l'œuvre à chaque instant, à la fois au plan des individus, donc la vie est à l'œuvre en moi et la mort est à l'œuvre en moi, et au plan du cosmos, au plan de la création tout entière, puisque toute création est à la fois et pas seulement un instant et puis un autre instant, ou une ère cosmique et puis une autre ère cosmique, mais dans le même temps, dans le même présent, dans le même instant, il y a ce pouvoir de création et puis ce pouvoir de reprise du monde pour le reconduire à sa source, pour le conduire à son origine, c'est-à-dire à ce dont il vient. À ce dont il vient, mais avec tout le parcours, évidemment, qui a été, qui s'est déroulé entre le commencement et la fin. Et donc, finalement, certaines formes de méditation invitent à découvrir en soi-même et dans tout ce qui existe autour de nous, à la fois ce mouvement de création et de vie, et ce mouvement de mort qui doit nous libérer de ce qui est trop étroit, ou qui doit nous libérer de ce à quoi nous nous accrochons de façon un peu trop égocentrique, ou un peu trop nerveuse, ou un peu trop inquiète, pour que justement l'élargissement, la libération, la mukti, n'est-ce pas, nous permette de libérer en nous ce potentiel de vie qui a été déposé lors de notre création, lors de notre naissance. Donc ce n'est pas quelque chose que nous devions fabriquer, mais c'est quelque chose que nous pouvons découvrir à la racine de nous-mêmes et à la racine de chaque être, et que nous sommes invités à déployer, que nous sommes invités à réaliser concrètement. Voilà.
Merci.
Oui. Tout à fait ce que dit Jacques, parce que j'avais relu récemment La montée au fond du cœur d'Henri Le Sceau, ce bénédictin parti vivre comme renonçant, et d'ailleurs il disait il faut renoncer au renoncement.
Oui,
voilà. Et vous savez qu'il a eu une crise cardiaque le 11 juillet 1973, et voilà ce qu'il dit. Une porte s'est vraiment ouverte au ciel quand j'étais étendu sur la chaussée, mais un ciel qui n'était pas l'opposé de la terre, quelque chose qui n'était ni la vie ni la mort, mais simplement l'être, l'éveil. Voilà, c'est tout à fait...
Merci. Il me semble que... Il y avait dans la question de Yann aussi, toi qui as écrit Un chrétien dans les pas du Bouddha, comment est-ce que la mort vivante te parle à toi qui es chrétien? Et puis on terminera peut-être là-dessus. Il y avait ça dans ta question, Yann. Hein.
Oui, alors je pense que c'est là qu'il y a tout de même une certaine convergence en profondeur, je pense, entre un certain nombre de messages de l'Inde et de la tradition chrétienne ou de la foi chrétienne. D'une part, cette prise de conscience et cette acceptation de l'impermanence de toute chose, qui est très fortement marqué dans l'hindouisme, qui est peut-être encore davantage, enfin, plus fortement marqué encore dans le bouddhisme. Et j'ai parfois l'habitude de dire que c'est un verset d'une lettre de saint Paul qui est peut-être la formule qui nous vient à l'esprit à propos de cette impermanence, lorsqu'il dit « elle passe la figure de ce monde ». Elle passe la figure de ce monde. Mais dans ce passage, dans cette impermanence, à condition que l'on soit capable de commencer au moins à la vivre avec une certaine liberté, eh bien, il y a la vie qui fait son œuvre, et que les chrétiens appellent d'abord la vie qui nous est donnée par la création, bien sûr, par l'appel, par la vocation, mais aussi, bien sûr, par la résurrection. Bien sûr, par la résurrection. Voilà.
Merci. Je crois que tout cela a suggéré quelque chose aussi à Christophe.
Juste un petit mot. Yann, vous mentionnez les fameux reliquaires du Gandhara, qui en fait datent de l'époque Kusha, donc aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ, à une époque où en fait le bouddhisme se transforme énormément et amène au bouddhisme Mahayana. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces reliquaires sont vides. Il n'y a pas de reliques. Vous voyez, c'est là où l'équation est un petit peu résolue. On pratique le culte des reliques sans les reliques. Du coup, je pense que c'est intéressant à méditer.
Merci beaucoup. On va en rester sur cette invitation à la mort vivante et puis à l'inconnu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Jacques d'avoir écrit ce livre.